Vous écoutez RTL.
14h03 sur RTL, c'est le moment de retrouver Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est la curiosité. Et vous le savez, ici on fait le plein de connaissances dans la bonne humeur. C'est jusqu'à 15h sur RTL et c'est avec Sidonie Bonnec. Bonjour.
Salut Thomas Hugues, salut à tous. Au programme, un maquilleur génial. Olivier est chaud de maison depuis 50 ans. Il maquille les plus grandes stars et on va raconter avec lui des grands destins. Jackie Kennedy, Grace de Monaco, Sophia Loren, Audrey Burn, Joséphine Baker, Romy Schneider et croyez-le ou non, j'en oublie, elles sont toutes passées entre ses pinceaux.
Mais d'abord, on s'offre un tour de France des curiosités naturelles et scientifiques avec Jamy Gourmaud.
RTL. Je me souviens de la première émission. Une émission consacrée au son, elle avait été tournée à La Rochelle.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Alors au cours de cette émission, j'ai fait un peu d'anatomie. Le tympan, un peu de technologie aussi, le micro.
Et pour roder notre camion, eh ben on a décidé de parler de sonorisation.
La curiosité,
donc de concert,
est un vilain défaut.
Il y a de la route, hein, faut y aller. Allez, chauffe Marcel.
Extrait de la toute première émission de C'est pas sorcier, bon cours. Bonjour Jamy.
Ça doit
rappeler quelques bons souvenirs. Alors maintenant, vous êtes le présentateur du monde de Jamy sur France 3 et vous avez sillonné la France depuis longtemps, puisque depuis ces deux émissions.
94.
Pour nous expliquer avec des mots simples, des démonstrations parfois spectaculaires, comment ça marche. Et vous y avez puisé un certain nombre de curiosités scientifiques. Allez, on rentre dans le vif du sujet. En voici une première qui nous mène en montagne. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Tarentaise ?
La Tarentaise, alors on pense tout de suite à une vallée. Mmh. La Tarentaise, c'est aussi le nom d'une vache des Alpes, que les experts appellent aussi la Tarine. Et c'est une vache vraiment qui est parfaitement adaptée à ce milieu des vallées alpines et des alpages.
Parce qu'elle a un bon cuisseau, c'est ça ? Elle monte bien ?
Alors, c'est une petite vache, en fait.
Ah, elle est légère.
Elle est très légère. Elle fait, grosso modo, 500 kg. Mmh. Et donc, quand on est léger, eh bien, on peut grimper facilement dans les alpages. Et puis, on peut redescendre sans se blesser. C'est ce qui fait que cet animal est parfaitement adapté à ce décor, à cet environnement.
Alors moi je suis nul en vache. La vache qui rit, c'est une Tarentaise ?
Ah, alors c'est marrant.
Vous êtes bon en fromage apparemment, enfin en bon fromage.
Oui,
enfin,
bon. C'est marrant l'histoire.
Je pense pas
de
celui-là.
L'histoire de la vache qui rit et de la Tarentaise. Parce que, en fait, la vache qui rit, c'est un fromage qui est fabriqué par la société Bell, qui est installée dans le Jura. Et dans le Jura, il y a également des Tarentaises. Parce que cette vache est tellement adaptée à la montagne qu'on va la retrouver à partir du début du XXe siècle, eh bien, dans toutes les montagnes, dans les Pyrénées, dans les Vosges, dans le Jura. Mais Bell n'est pas allé forcément chercher une Tarentaise pour
faire son logo,
pour être imprimée sur son logo. En fait, la vache qui rit a été dessinée par un dessinateur vendéen, Benjamin Rabier. Et à l'origine, ce logo de la vache qui rit était placardé sur des véhicules qui apportaient de la nourriture aux soldats du front pendant la Grande Guerre.
Ah, c'est passionnant. Alors si
et Bell, donc qui était militaire, donc avait repéré ce logo. Et il l'a utilisé une fois qu'il est rentré chez lui et qu'il a pris la direction de sa fromagerie.
Alors, si on se passionne là pour cette vache, la Tarentaise, c'est parce qu'effectivement, il y a une curiosité scientifique.
Oui.
Quand on la regarde bien en face, là, les yeux dans les yeux, qu'est-ce qu'on remarque ?
Alors, elle a des yeux... Non, on peut presque tomber amoureux d'une Tarentaise. On a l'impression qu'elle vous sourit. On a l'impression qu'elle est maquillée. Elle a le tour de l'œil beaucoup plus foncé que le reste du masque. On a vraiment l'impression qu'il y a du mascara.
Et ça s'explique comment, ce mascara hypothétique, Jamy ?
Alors, ça fait partie des adaptations de cet animal à la montagne. L'intérêt, et c'est peut-être pour ça, justement, qu'elle est capable de monter dans les alpages. Elle est légère, mais ce tour de l'œil qui est noir, eh bien, ça va la protéger du soleil.
Ah, ce sont ses lunettes de soleil.
Exactement, ce sont des lunettes de soleil. En fait, faut imaginer que quand on est dans les alpages, eh bien, le soleil est beaucoup plus dur, beaucoup plus fort à cause de l'inclinaison de la pente. Et puis, en début de saison, il y a des névées qui sont restées en place, donc une réverbération. Eh bien, cette vache, grâce au tour de l'œil, à ses lunettes de soleil, va être protégée parce que les rayons du soleil vont être absorbés, ils ne vont pas rebondir sur son pelage. Et donc, elle est parfaitement adaptée pour grimper dans les alpages dès les premiers jours du printemps, dès que la neige commence à fondre.
Et Jamy Gourmaud, pourquoi les autres vaches, elles font comment? Celles qui n'ont pas de mascara, là, celles qui n'ont pas ce maquillage comme la tarentaise, si elles vont en montagne, elles font comment?
Je vous invite, et j'invite tous les auditeurs, lorsque vous serez en montagne, et si vous voyez une vache qui n'a pas le tour de l'œil foncé, vous remarquerez qu'elle pleure. Elle pleure pas parce qu'elle est triste. Elle pleure tout simplement pour se protéger du soleil. Voilà. Alors, on a parlé du tour de l'œil de cet animal, de la tarine, mais ce qui en fait le 4x4 de la montagne, c'est aussi parce qu'elle a un sabot qui est réputé très solide, donc adapté à tous les terrains. Et puis, quand on l'observe bien, eh bien, on s'aperçoit qu'elle a une toute petite mamelle. Et cette petite mamelle, ça va lui permettre d'enjamber les fourrés, les buissons, sans se blesser. Et grâce à tous ces atouts, eh bien, cette vache va pouvoir, dès les premiers beaux jours, grimper dans les alpages et se nourrir de ce foin, de cette herbe extraordinaire.
Et grâce à vous, Jamy, on est tombé amoureux de la tarine. Voilà, c'est tout simple. Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, c'est le titre de votre livre qui est publié chez Stock. On y découvre, et restez bien avec nous, comment la conquête des airs a commencé en Ardèche. À tout de suite, les curieux.
Jusqu'à 15h.
Il y a la France que vous connaissez. Avec ses monuments incontournables.
Sidonie Bonnec.
Ses paysages à couper le souffle. Et ses magnifiques villages.
Thomas Hugues.
Mais derrière ces lieux se cache parfois une France plus secrète, plus étonnante.
RTL.
Et si nous découvrions l'envers du décor?
Soyez fiers d'être curieux.
L'envers du décor, un beau voyage qu'on vous propose sur RTL, un tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. Et notre guide, c'est l'animateur de France 3, Jamy Gourmaud. On va faire un voyage maintenant dans le temps et aussi dans l'espace. On est en novembre 1783 à Paris et on découvre les tout premiers passagers des airs. Qui sont-ils?
Alors, les deux premiers êtres humains à grimper dans les airs, c'est Jean-François Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande. Voilà. Alors,
il grimpe dans quoi? La montgolfière, ce qu'on a appelé la montgolfière?
Exactement. À l'époque, on ne l'appelle pas encore une montgolfière. C'est une machine volante, c'est un aérostat. Voilà. Mais on n'appelle pas ça encore les montgolfières. Les frères montgolfières ne sont pas encore devenus, presque, puisqu'il y a quand même eu un premier vol à Versailles quelques mois plus tôt devant le roi.
Oui, qu'on va raconter tout à l'heure.
Mais les
montgolfiers
ne
sont pas encore une star à ce moment-là.
Mais les deux premiers hommes, ce sont donc Jean-François Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande. Ce sont les deux premiers. Alors, moi, ce que j'adore dans ces histoires, c'est de se remettre dans le contexte. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Quand Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande grimpent dans leur ballon, aucun être humain n'a vu la Terre depuis là-haut.
Et c'est un rêve depuis l'Antiquité, en plus. C'est une obsession, c'est ça qui est dingue, de voler.
Remettez-vous dans ce contexte.
Parce qu'aujourd'hui,
On en parle, on a des images qui nous arrivent. Mais à ce moment-là, ce 21 novembre, personne ne sait à quoi ça ressemble.
Ils vont s'élever de combien de mètres avec cet aérostat? Et ça va durer combien de temps, ce vol?
Alors, ils vont partir du château de la Muette. Ils vont grimper à environ 1000 mètres de hauteur.
Quand même.
Ils vont survoler Paris, découvrir les méandres de la Seine. Jusqu'à présent, on les a dessinés parce que des géographes ont imaginé le dessin. Mais ce sont les premiers à vraiment voir, depuis là-haut, les méandres de la Seine.
Ça va durer combien de temps, ce vol?
Ça va durer 25 minutes. 25 minutes, et ils vont aller jusqu'à la Butte aux Cailles. Voilà, et puis arrivé à la Butte aux Cailles, eh bien, le ballon va se déposer et se poser, voilà, et ça va chier comme une bête très fatiguée.
Jamy, j'ai dit tout à l'heure que cette histoire, elle nous emmène en Ardèche. Donc allons-y en Ardèche. C'est la terre d'origine des frères Montgolfier, c'est ça?
C'est la terre natale des frères Montgolfier, Annonay, Vidalon les Annonay. Et ces deux frères, Étienne et Joseph, ils passent leur temps à cogiter. Il y a l'entreprise familiale, ils ne sont pas petits, mais les deux frères sont passionnés de science, de technique, d'innovation. Évidemment, ce ne sont pas des mots qu'on prononce à cette époque. Et ils ont envie de voler. Alors, ils ont passé des heures, des après-midi entières à observer les oiseaux. Mais ils ne trouvent pas. Ils cherchent, ils ne trouvent pas.
Et finalement, c'est au sein de leur maison qu'un des deux frères va avoir une révélation. Qu'est-ce qui va se passer, Jamy Gourmand ?
Alors, c'est pas vraiment chez lui, c'est pas loin, c'est à Avignon. Mm-hmm. Je l'ai dit, ils sont pas petits. Joseph, l'aîné, donc est en affaire avec un Avignonnais pour acheter des matières premières. Il est hébergé chez lui. Et c'est au mois de novembre. Et au mois de novembre, à Avignon, il fait très froid dans les maisons. Et alors, il faut imaginer qu'en fin de soirée, il rentre dans ses appartements, il fait un grand feu, et il est là, devant la cheminée, il attend pour se coucher, parce qu'il fait froid. Et puis, là, il y a deux versions. Il y en a une qui dit, voilà, Joseph a très froid, donc il veut absolument réchauffer sa chemise qu'il va enfiler pour la nuit. Donc, il la présente devant le foyer. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la chemise, d'un seul coup, gonflée et s'élever légèrement. Ça, c'est une version. Ouais. La deuxième version, c'est peut-être un peu des deux, c'est Joseph qui est en train d'observer une gravure du siège de Gibraltar. Le siège de Gibraltar qui a duré pendant des mois et les Espagnols et les Français n'arrivaient pas à pénétrer cette place forte anglaise. Ils ont essayé par la terre, par la mer. Et là, Joseph se serait dit, mais si on n'y arrive ni par la mer ni par la terre, peut-être qu'on pourrait y arriver par les airs. Et en voyant la fumée s'élever dans le conduit de cheminée, il se serait dit, bon sang, l'air chaud.
Eureka.
Et ce ballon des frères Montgolfier connaîtra rapidement les honneurs de Versailles. On vous raconte comment Louis XVI s'est enthousiasmé pour leur invention. Ce sera juste après la pause sur RTL.
Je ne suis spécialiste d'aucune discipline. Je ne suis ni physicien, ni chimiste, ni biologiste. Je ne suis pas enseignant.
RTL.
Je ne suis qu'un passeur.
La curiosité est un vilain défaut.
Mon rôle consiste à faire le lien entre les sachants et ceux qui se nourrissent de leur savoir.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et on est très heureux d'avoir ce passeur de savoir avec nous, Jamy Gourmand. Le Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, c'est le programme de notre émission et le titre de votre livre qui est publié aux éditions... Je ne sais plus quel éditeur.
Stock.
Merci beaucoup.
Merci d'être là, Jamy.
Heureusement que vous êtes là. Bon, en même temps, si les invités ne connaissaient pas leur éditeur, on serait mal parti. Alors, on termine l'histoire.
Très belle maison d'édition.
Mais oui, qu'on reçoit souvent. On termine l'histoire des frères Montgolfier, donc les premiers humains à conquérir les airs. Vous nous avez raconté, et c'est vrai quand on y pense maintenant, cette sensation qu'ont dû avoir. Alors, ce n'étaient pas les frères dans leur aérostat, c'était deux nobles, mais qu'ont dû avoir de voir la Terre pour la première fois d'en haut. Et donc, évidemment, ça fait un peu de bruit. Cette invention, les voilà à Versailles, on est en septembre 1783, pour faire une démonstration devant le roi, devant Louis XVI et la cour. D'abord, comment se passe le premier vol ?
Alors, le tout premier vol, il faut imaginer que lorsque Joseph a cette idée, il rentre chez lui, très vite avec son frère, ils font des essais, la nuit, pendant l'hiver, ça marche, et ils ont envie de montrer ça au public. Donc, il y aura un premier vol qui aura lieu en juin, devant une assemblée locale, et l'information va arriver à Paris. Va arriver très vite à Paris et le roi Louis XVI, on le sait, est passionné de mécanique, de science, de physique. Il veut voir. Donc
les voilà à Versailles. Convoqués. Mais ça commence mal.
Voilà, ça commence pas très bien effectivement. c'est Étienne, donc le plus jeune des frères qui vient à Paris parce qu'on considère qu'il a plus de facultés à entrer en relation avec l'aristocratie. Ils ont besoin de soutien, hein, il ne faut pas l'oublier. Joseph est un peu bourru. Joseph reste à l'imprimerie.
Attendez, c'est sous le bras, Jamy, là, sa montgolfière, c'est
non,
ça
non,
ah
non, non,
parce que c'est
elle
énorme.
Elle va être fabriquée à Paris. Donc du côté de Bastille, elle va être fabriquée. Il va falloir plusieurs semaines pour la concevoir, cette montgolfière. On fait des essais, ça fonctionne, sauf que là, quelques jours avant le 19 septembre, date à laquelle doit avoir lieu l'ascension à Versailles, on fait un essai, un orage éclate, et le ballon est totalement détruit.
Ravagé.
Par la pluie. Pourquoi il est détruit ? Tout simplement parce que ce ballon, il n'est pas solide.
Il est en papier ?
Eh bien, ils sont papetiers. Donc, leur ballon, il est fabriqué avec du taffetas, des chutes de soie qui est doublé avec du papier. Mais il n'est pas étanche. Mmh. Donc ce ballon prend l'orage, il est détruit.
Mais il leur reste quoi, 4 jours avant le rendez-vous avec le roi? On peut pas rater un tel rendez-vous.
Exactement. Et alors là, ils se retroussent les manches.
Et qu'est-ce qu'ils inventent alors?
Et Étienne refait un ballon. Ils vont aller très très vite.
En 4 jours?
En 4 jours. En 4 jours, ils mobilisent toute leur connaissance. Il a déjà séduit l'aristocratie. Pilate de Rosier est déjà avec lui. Donc, ils se mobilisent et ils parviennent à refabriquer un ballon. Et le 19 septembre,
au matin...
Mais
comment il est imperméable, ce ballon, alors? Avec quelle matière, vous le savez?
Celui-ci n'est pas imperméable.
D'accord.
Ils espèrent qu'il ne pleuve pas.
celui-ci n'est pas imperméable. Oui. Il y aura des ballons imperméables. Les premiers ballons imperméables sont des ballons à hydrogène parce qu'on aura trouvé le moyen de fabriquer de la gomme pour les enduire. Mais pas celui des frères Montgolfier.
On revient à Versailles, ça y est, c'est le 19 septembre. Oui. On imagine, là encore, on est dans les jardins, j'imagine, du château.
On est dans les jardins du château.
Et Louis XVI, la cour, tout le monde est là.
Voilà, Louis XVI va venir visiter l'installation avec sa famille. Ils vont rentrer sous l'échafaudage qui a été dressé pour soutenir le ballon. Il faut imaginer qu'on a dressé des grandes perches de bois pour soutenir cette toile immense. Le ballon est immense, 24 mètres de hauteur, 13 mètres de diamètre. C'est un monstre qu'il va falloir gonfler. On a amené des centaines de fagots de bois pour gonfler ce ballon à air chaud. Et puis il y a une nouveauté, ouais, quand même. C'est que le premier ballon est monté dans les airs lorsqu'ils ont fait leur expérience à Annonay, seul, sans passagers. Là, il va y avoir des passagers. Un coq, un canard et un mouton. Alors, pourquoi cette ménagerie? C'est très drôle parce que, en fait, déjà ils ont une idée derrière la tête. C'est-à-dire que le coq et le canard, ce sont des volatiles. Donc, on imagine qu'ils vont parfaitement résister au vol. Oui. Le mouton, c'est un mammifère.
Et alors, vous allez nous dire si toute cette ménagerie a survécu à ce vol de l'aérostat des frères Montgolfier à Versailles. C'est puis, dans un instant.
Ah, puis juste après, dans la seconde partie de l'émission, on va recevoir Olivier Échaud de Maison, le maquilleur des stars. Plein de secrets à nous raconter.
Merci, Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et toujours avec nous, Jamy Gourmaud, l'animateur du Monde de Jamy, qui nous emmène à la découverte de ces curiosités naturelles et scientifiques. En France, on voyage, on l'a dit, dans l'espace. On était en Ardèche tout à l'heure, on était à Paris, mais on est aussi dans un voyage dans le temps, parce que cette histoire que vous nous racontez, elle nous ramène à l'époque de Louis XVI. On est donc avec les frères Montgolfier, on est donc à Versailles. C'est le 19 septembre 1783. Il y a un mouton, il y a un canard, il y a un coq à bord de la nacelle. Est-ce qu'ils vont survivre, ces animaux, voilà, à ce vol?
C'est une drôle de ménagerie, mais effectivement, oui, la question, c'est de savoir, est-ce que, puisque personne n'a grimpé à cette hauteur, est-ce que des êtres vivants vont pouvoir survivre à l'altitude? Alors, le canard et le coq, on s'en doute, mais le mouton, bien oui, ils vont survivre. En fait, ça va être un vol très très court, hein. Ça va durer une petite dizaine de minutes, entre 7 et 8 minutes. Le ballon ne va pas monter très haut, à 500 mètres d'altitude, et il va parcourir 3 500 km. Donc, petit vol, mais vol réussi. La nacelle va se poser au sol. Je crois qu'il y a un de deux volatiles qui va avoir une aile cassée au moment de la chute de la nacelle. Ouais. Mais le mouton, lui, se porte parfaitement bien. Et ça, c'est un signal terrible pour les aérostiers, pour les frères Montgolfier.
Et ça permettra d'organiser le premier vol avec des humains à bord qu'on a raconté en début du récit.
Voilà,
c'est le test en quelque
exactement,
sorte.
Exactement, si un mouton vit en altitude, vit à cette altitude, des êtres humains pourront en faire autant.
Merci beaucoup, merci Jamy Gourmaud.
Merci à vous.
Alors évidemment, là on a choisi d'en privilégier deux histoires, mais il y en a énormément d'autres tout aussi passionnantes. Un Jurassic Park dans l'Aude.
L'histoire de la vanille.
L'histoire de la vanille sur l'île Bourbon, qui est aujourd'hui l'île de la Réunion. Bref, il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir dans ce livre, Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. C'est chez Stock. Et le prochain Monde de Jamy sur France 3,
c'est le 15 avril, et c'est une émission qui sera consacrée à l'espace, à la conquête de l'espace. Une émission que l'on a fait avec Thomas Pesquet. On a eu la chance de passer plusieurs jours avec lui. Et on parle bien sûr de la conquête, du passé, des pionniers. Mais avec lui, on parle aussi beaucoup de Mars. Et vous allez voir que nous y sommes presque. En tout cas, ils s'entraînent.
Merci Jamy, à bientôt.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.